de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard le 7 décembre 1987.
Je vous disais donc que lorsqu'il s'agit de cette éthique religieuse, faut tout le temps revenir à ce que représente cet acte d'adoration. L'homme est naturellement un être qui adore. C'est évident qu'il y a le secours de la grâce de Dieu, comme pour toutes nos activités qui sont bonnes. Mais il ne s'agit pas d'un acte surnaturel. Il s'agit d'une opération naturelle. Alors nous avions essayé de commencer par voir tout ce qui était impliqué dans cet acte d'adoration. Pour pouvoir adorer Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu comme créateur. Et c'est la connaissance du créateur qui réclame cet acte d'adoration, qui est un acte d'amour, un acte qui reconnaît ce qu'est Dieu pour nous. Comme la création est un acte tout à fait gratuit de la part de Dieu, un acte qui implique une surabondance d'amour et un acte de sagesse. On retrouvera cela dans les exigences mêmes de l'adoration. Alors, j'avais précisé, je reviens un instant là-dessus, que cette connaissance à l'égard de Dieu pouvait être ou une connaissance donnée par les traditions religieuses. Et ça, c'est très important pour comprendre le phénomène qui se passe aujourd'hui, hein, du moins en Europe. Pas au Liban, mais en Europe. Ce phénomène tout à fait particulier de cette laïcisation sur laquelle le Saint-Père insiste beaucoup. Notre Europe, qui a été chrétienne, connaît une terrible laïcisation. Ça, il faut bien le regarder. Cette laïcisation fait que les traditions religieuses sont rejetées. Parce que l'homme a besoin d'être porté par les traditions religieuses. Il est trop fragile par lui-même pour découvrir le mystère du Dieu créateur. C'est très vrai que les traditions religieuses restent quelque chose d'imparfait. C'est une connaissance affective qui ne nous donne pas une certitude absolue et des précisions sur Dieu. C'est de l'ordre de l'opinion, mais quand on dit de l'ordre d'opinion, faisons attention. Hein. La doxa grecque, il y a toutes sortes d'opinions. Hein. Et quand il s'agit des traditions religieuses, elles nous donnent une opinion de vie. Donc quelque chose de très fondamental. Quand je dis opinion et quand je regarde une connaissance scientifique, c'est quelque chose de relatif. Mais l'opinion, dans l'ordre affectif, est quelque chose de très grand. Nous vivons d'opinion au niveau affectif. C'est-à-dire d'une connaissance qui n'est pas une connaissance absolument précise. Vous voyez, c'est la connaissance à travers le brouillard. Hein. Alors, il ne faut pas évidemment que le brouillard soit trop épais. Mais quand le brouillard n'est pas très épais, c'est très agréable. C'est quelque chose qui tamise un peu. C'est ça l'opinion. C'est une connaissance qui n'est pas précise et qui repose sur une autorité. Et donc les traditions religieuses nous conduisent à une opinion qui permet une adhésion affective. une adhésion même prudentielle, vu la grandeur de ces traditions. Si on a un certain sens d'une connaissance affective, on a besoin d'opinion, on a besoin de tradition religieuse. Il est sûr que la foi a donné des certitudes beaucoup plus grandes que celles des traditions religieuses. Et donc, la foi a relativisé énormément les traditions religieuses. On peut même dire que la foi nous a libérés des traditions religieuses. Mais à partir de la foi sont nées de nouvelles traditions religieuses, qui sont des traditions chrétiennes. Les traditions chrétiennes religieuses reposent sur la foi. Le jour où la foi disparaît, où on les a rejetées, voyez que le chrétien, alors à ce moment-là, et là je parle par exemple de l'Europe, le climat des traditions religieuses a été relativisé par la foi. Quand la foi disparaît, les traditions religieuses n'ont plus du tout le même impact sur l'homme. C'est en ce sens-là que je dis que la foi a mûri l'homme, et quand la foi disparaît, elle laisse l'homme plus fragile. C'est un phénomène très curieux, ça. Je crois que le philosophe doit essayer de l'analyser quand il s'agit de l'éthique religieuse. On doit essayer de comprendre cela. Pas historiquement seulement, au point de vue historique, on pourra dire « oui, il y a eu la Révolution française » qui a joué un rôle énorme sur toute l'Europe. Ça, c'est sûr. La Révolution française a joué un très grand rôle de d'émancipation. Et vous voyez, la lumière, du moins, la façon dont un marxiste peut regarder la Révolution française. C'est très intéressant à voir. Parce que quand on parle de la Révolution française, il y a Harimont, un professeur qui fait un professeur d'histoire de l'Église, qui fait un cours sur la Révolution française. Il a une lumière particulière, non seulement parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il est à tendance monarchique. Ça se voit. Vous voyez, ça se comprend. En France, on a identifié très fort, si vous voulez, le point de vue chrétien et le point de vue monarchique. Il y a eu un blocage, on ne peut pas nier ça, ça fait partie de ce blocage de la foi, des traditions politiques et des traditions familiales. Les bons chrétiens de droite, on est tous un peu chrétiens de droite, et puis de temps en temps on est chrétiens de gauche parce qu'on renvoie promener ces traditions. Vous voyez, quand on parle du traditionnalisme, le traditionnalisme français de deux monades, il faut voir ce que c'est. Il faut comprendre ce que c'est au point de vue philosophique. Parce que c'est vrai, on doit pouvoir comprendre ces choses-là pour en faire la critique. Mais quand je dis en faire la critique, ce n'est pas tout envoyer promener. C'est comprendre ce qui a été le patrimoine d'un pays. Comme il y a un patrimoine du Liban. Il y a un patrimoine du pays. Chaque pays a son patrimoine. Et ça fait partie de la patrie, ça. Alors, évidemment, la Révolution française a joué un rôle qui, soi-disant, a voulu libérer l'homme. Libérer l'homme au plan politique et, la conséquence, au plan religieux, au point de vue de la foi. Quand vous regardez Voltaire, de temps en temps lire quelques passages de Voltaire, hein, et comprendre ce que c'est que Voltaire, ce grand français, hein, Voltaire Jeanne d'Arc. Oui, la comparaison a été faite, c'est pour ça que c'est intéressant. Jeanne d'Arc nous libère, envoyée par Dieu. Pour un historien laïque, qu'est-ce que c'est que Jeanne d'Arc, hein? C'est encore du temps des sorciers. On a écouté la sorcière. Et elle a réussi, c'est bon. Elle a mal terminé. C'est pas étonnant, on l'a brûlé. C'est le sort de tous les sorciers, ils brûlent sur la place publique. Elle était plus grande que les autres, et elle a réussi mieux. Et puis Voltaire, la raison, le dieu architecte. Voltaire n'est pas un athée, mais Voltaire conduit à l'athéisme. Parce que c'est le dieu de la raison. Or, il n'y a pas de dieu de la raison. Je regrette. Dieu est le dieu du cœur et de l'intelligence, pas de la raison. Faire Dieu le dieu de la raison, c'est tout de suite mettre un dieu qui n'est plus le dieu. Vous voyez, c'est très important de comprendre ces choses-là pour voir que l'attitude religieuse se fonde sur les traditions religieuses. Il y a eu des traditions chrétiennes. Et dans chaque pays, on trouverait des choses analogues. Hein. Dans chaque pays, on doit d'abord étudier son pays pour comprendre les autres pays. Parce que les traditions religieuses, le patrimoine religieux, implique tout un aspect affectif. C'est très curieux d'entendre quelqu'un qui n'est pas du pays et qui parle des traditions et du patrimoine du pays. Il y a toujours quelque chose qu'il ne comprend pas. Ça ne peut pas être autrement. Parce qu'il y a tout un aspect affectif et subjectif. Vous voyez, les traditions africaines, les traditions de l'Asie. Voir ce que c'est que le bouddhisme. Et comment il y a des traditions religieuses liées au bouddhisme. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que ça représente, hein, philosophiquement parlant? Qu'est-ce que ça représente des traditions religieuses, le bouddhisme? Les traditions religieuses de chaque pays liées au christianisme, ou les traditions religieuses liées à l'animisme, à des religions tout à fait primitives et donc très fondamentales. Le bouddhisme n'est pas une tradition primitive religieuse, tandis que l'animisme, oui. Alors, il faut comprendre que les traditions religieuses, l'homme en a besoin. Et c'est comme celui qui dit « Je ne veux plus de dévotion ». Je me souviens, c'était une lecture, je ne sais plus le titre, qu'on avait lu au Solchoir chez les Dominicains. On avait tous éclaté. C'était fait par un catholique un peu de gauche, de tendance. Et alors il disait ceci, plus de dévotion particulière, je ne veux que la dévotion universelle. Alors, vous comprenez, c'est monstrueux, parce que toute dévotion est particulière. Donc quand on dit une dévotion universelle, ça veut dire qu'on ne veut plus de dévotion. Qu'on relativise les dévotions, très bien, mais supprimer les dévotions, et c'est supprimer tout un aspect affectif et familial. La famille maintient les dévotions. Les dévotions en soi ne sont pas mauvaises. Vouloir supprimer les dévotions, c'est tomber dans une espèce de libéralisme faux. Alors, mettre une dévotion universelle, vous voyez, c'est comme si on voulait des traditions universelles. On voudrait unifier toutes les traditions, mais non. Les traditions sont propres à chaque pays. Dans son patrimoine propre. Alors, l'histoire, ce serait très intéressant à faire, c'est difficile parce qu'il faudrait quelqu'un d'extrêmement calé au point de vue historique, mais c'est quand même très important. Vous voyez, comprendre les grandes traditions dont nous sommes tous un peu pétris. Les traditions religieuses, on est tous un peu pétris. Voir ce que c'est que la tradition musulmane, qui n'est pas identique, hein, faut bien comprendre, avec la grande culture arabe. C'est pas du tout la même chose. C'est deux choses différentes. Et de l'extérieur, on identifie, on fait ces espèces de syncrétisme faux. Il y a le point de vue de la culture, et dans les cultures, le point de vue des traditions religieuses. La tradition religieuse la plus grande, c'est la tradition religieuse chrétienne. J'ai dit bien, la plus grande, même historiquement, les historiens le reconnaissent. Mais la tradition religieuse chrétienne n'est pas la foi. Si respectables que soient les traditions religieuses chrétiennes, elles sont toujours à être purifiées, renouvelées, tout le temps. Et les traditions religieuses chrétiennes dépendent de la foi du croyant. Elles sont relatives à la foi. Elles sont des dispositions vers la foi, ou elles sont le fruit de la foi, mais elles ne sont pas la foi. La foi est personnelle et relève d'un don personnel de Dieu. Il n'y a pas un baptême collectif et familial, bien que le baptême soit rattaché à la famille. Et le baptême est individuel, et la foi est individuelle et personnelle. Tandis que les traditions sont familiales, sont reliées à un pays, à une culture. Et les traditions chrétiennes sont reliées à l'intervention de la révélation et de la foi. Les traditions judéo-chrétiennes et la purification des traditions judéo-chrétiennes en traditions chrétiennes. Le passage de Jérusalem à Rome. C'est tous ces problèmes-là très importants que nous devons saisir. Vous voyez, pour quelqu'un qui est plongé dans la tradition purement judaïque. Le passage de Jérusalem à Rome, qu'est-ce que ça représente? Pour un chrétien, le passage de Jérusalem à Rome, pourquoi dans les Actes des Apôtres on voit ça? C'est un fait, et c'est mis dans les Actes des Apôtres, et les Actes des Apôtres représentent une révélation. On peut discuter en historien, en disant Pierre a fait une gaffe énorme. Était poussé par Saul de Tarse, qui était toujours un peu resté le grec. Et ça, c'est un apport tout à fait étranger, ce passage de Jérusalem à Rome, mais c'est une erreur complète. Le chrétien dit, Pierre et Paul sont poussés par l'Esprit Saint et veulent une purification des traditions judéo-chrétiennes pour que ce soit des traditions plus profondément chrétienne. Voyez tous ces problèmes que ça pose. Alors je crois, et ça j'en suis sûr au point de vue philosophique, que l'adoration présuppose un climat de tradition religieuse. L'adoration ne peut s'épanouir que dans un climat de tradition religieuse. L'adoration, quand elle veut être plus pure, alors dépasse ces traditions religieuses de deux manières. Par la foi personnelle. Et là, on aura des attitudes beaucoup plus personnelles. Et au fond, ce sera très vite une attitude mystique. Les mystiques dépassent les traditions et les renouvellent par une foi personnelle. Et l'autre, la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique dépasse les traditions religieuses. Je dis bien les traditions religieuses. Pas la foi, c'est évident. Et la connaissance métaphysique, à ce point de vue-là, est quelque chose de merveilleux pour la purification de l'adoration. Donc vous voyez, je dirais qu'il y a trois sources de l'adoration. Si on veut vraiment comprendre ce que représente le mystère de l'adoration, ce que représente l'adoration au point de vue le fondement le plus radical de la vie humaine. La vie humaine n'a toute sa dimension que lorsqu'elle implique l'adoration. Et l'adoration a trois sources de renouveau, et elle a trois sources de connaissance, et la connaissance est nécessaire à toute adoration. Les traditions religieuses, avec toute leur diversité, donc je dis les traditions religieuses au point de vue philosophique, sachant très bien que c'est très divers. Et ce serait très intéressant d'en faire la coupe philosophique. Vous voyez, les traditions religieuses, comprenons bien, sont analogues à l'attitude pratique de l'adoration, que lorsque j'étudie en topique historique les diverses opinions des philosophes. Mais je dis bien, c'est tout à fait différent. La topique historique nous aide extrinsèquement, tandis que les traditions religieuses nous aident intrinsèquement par rapport à l'adoration. Parce que c'est affectif. Et que l'adoration est un acte affectif, un acte d'amour. Et dans l'amour, les traditions religieuses forment un climat intrinsèque. Je ne peux jamais me libérer des traditions religieuses d'une façon totale. Ce serait une fausse libération. Tandis que, au plan métaphysique, je me libère des opinions des philosophes quand je découvre la liberté, quand je découvre la vérité. Il y a une libération de tout ce que représente l'opinion des autres. Le philosophe est libre à l'égard de l'opinion des autres quand il découvre la vérité. La vérité le libère de ses opinions des autres. Tandis que je ne peux pas dire ça à l'égard des traditions religieuses. Je me purifie des traditions religieuses, mais je ne peux jamais m'en libérer. Ce serait une fausse libération. Pourquoi ? Parce que notre vie affective, dans ce qu'elle a de plus profond, est religieuse. Notre vie affective, dans ce qu'elle a de plus profond et religieuse. Et notre vie affective a toujours besoin d'un milieu pour s'épanouir. Notre vie affective ne peut pas se libérer d'un milieu. C'est le milieu familial, c'est le milieu religieux, c'est la grandeur de la vie religieuse. C'est le milieu religieux, on a besoin d'un milieu religieux. L'ermite sort du milieu religieux pour y revenir de temps en temps. Un véritable ermite, c'est comme ça. Il a besoin d'une communauté religieuse à côté. L'ermite seul, alors vous voyez, il prend des formes différentes. Il prend la route. Et il prend la route parce qu'il a besoin de communiquer. L'ermite seul, qui est dans son trou, pour adorer Dieu, c'est très bien, mais c'est, j'allais dire, ce n'est pas parfait. Je ne crois pas, même au point de vue purement humain. Il a besoin de la communauté. Il peut s'isoler momentanément, mais je crains, au point de vue humain, je prends, point de vue philosophique, point de vue divin, c'est autre chose. Mais je prends point de vue philosophique. Et c'est important de le voir pour comprendre justement la différence avec une éthique chrétienne et ce qu'apporte l'éthique chrétienne. Le point de vue religieux a besoin de l'aspect tradition. Et la tradition est un phénomène communautaire. La tradition ne se rattache pas à la personne immédiatement et à l'individu, elle se rattache à la communauté. Alors, la tradition religieuse, on en a toujours besoin. On peut les purifier, on doit les purifier, mais on en a toujours besoin. Donc la première source, tradition religieuse. Les traditions religieuses, elles sont multiples, les traditions religieuses. Et aujourd'hui, on assiste à ce phénomène très particulier que les traditions religieuses qui, avant, vivaient surtout en rivalité, on voit aujourd'hui que les traditions religieuses tendent à s'unir. Le danger, c'est l'éclectisme, mais le danger ne doit pas nous voiler la grandeur qu'il peut y avoir dans le fait que les traditions religieuses essaient de voir ce qu'il peut y avoir de commun. Et ce phénomène des traditions religieuses qui s'unissent, c'est face aux idéologies athées. Les idéologies athées sont l'ennemi numéro un des traditions religieuses. Et nous sentons très bien, dans le climat d'aujourd'hui, que ces idéologies athées risquent d'amputer l'homme de ce qu'il a de meilleur, son attitude religieuse. Et face à ce danger, il y a une unité qui se fait. Du moins, il y a une tendance vers l'unité, de retrouver ce qu'il y a de commun. Et alors, on doit s'en servir pour mieux comprendre l'importance unique aujourd'hui de l'adoration. Parce que si, de fait, dans cette tendance d'unir les traditions religieuses, il n'y a pas une purification constante, il y aura un syncrétisme effrayant. Le syncrétisme qu'on peut retrouver, vous voyez, dans certains mouvements qui voudraient unir les traditions religieuses en dehors de la foi, en dehors de la métaphysique. Il y a un syncrétisme. Il y a un très grand danger de syncrétisme aujourd'hui. Parce que ces traditions religieuses, on les côtoie. On les rassemble. Et c'est vrai que le bouddhisme apporte quelque chose. On n'a pas le droit de le considérer en disant « c'est complètement dépassé, pas du tout ». Il renaît aujourd'hui. Toutes les traditions religieuses renaissent, avec quelquefois un fanatisme religieux. Ça, c'est le danger. Les traditions religieuses, très facilement, quand elles sont prises pour elles-mêmes comme un absolu, et qu'elles ne sont pas relativisées à l'homme dans son adoration, qui est reliée directement à Dieu, les traditions religieuses très facilement engendrent un fanatisme. Un fanatisme politique. À cause de cet élément affectif. Vous savez bien que les deux passions les plus terribles, c'est les passions religieuses et les passions politiques. Et quand les passions politiques et les passions religieuses s'unissent, on est devant un fanatisme au carré. Et le fanatisme religieux et politique, c'est la chose la plus terrible qui soit. Parce que ça amène quelque chose d'impitoyable. Vous savez ce qui s'était passé au moment de la guerre des 7 jours en Israël? Ça m'a été dit. Je suis parti là-bas très peu de temps en Israël, je suis parti peu de temps après la guerre des 7 jours, et je voyais une sainte religieuse française à Bethléem, qui était la supérieure de l'hôpital français qui est une maternité, qui a une maternité, il y a aussi autre chose, mais c'est surtout avant tout le point de vue de la maternité. Et il y avait là une supérieure, fille de la charité, fille d'un grand général, c'est tout dire, n'est-ce pas ? Alors, française, dans le très bon sens, avant tout évidemment fille de la charité, et alors elle m'a dit cette chose, c'était très très joli, c'est un petit, ça m'a beaucoup éclairé du reste. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a dit, oh oui, sitôt la guerre, on est venu. Et je voyais qu'on venait prendre ma voix. C'était Israël, les Juifs, qui étaient venus auprès d'elle, en disant, ma mère, dites-nous un tout petit peu comment la guerre s'est passée, puisque vous êtes supérieure ici de l'hôpital français. Alors elle voyait bien qu'on voulait prendre son témoignage. Et voyez qu'elle était au carrefour, elle était très liée à tous les musulmans de Bethléem. Et en même temps, Israël venait, et Bethléem, on sait très bien, était pris dans l'enclave. Alors elle a simplement dit, nous sommes un hôpital d'enfants, une maternité, nous avons reçu 3 bombes du peuple d'Israël. Évidemment, ça n'a pas été pris, ça. Alors on a vu qu'on retirait le geste, c'était suffisant. Et là, vous n'avez rien d'autre à ajouter ? Non, rien d'autre à ajouter. Et puis alors, elle recevait la visite le lendemain, ou le jour même, je crois, du grand... C'était du grand chef musulman qui la connaissait très bien, qui l'aime beaucoup, et qui avait déjà dit avant la guerre, quand ça a commencé, « Oh, ma mère, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez absolument pas. Nous sommes là et nous vous aimons. Alors, nous serons victorieux, c'est bien évident. Le samedi, Israël à la mer et le dimanche, les chrétiens au poteau. Alors, ne vous inquiétez pas. Je viendrai tuer toutes vos sœurs, mais je le ferai proprement. Vous voyez, comme satisfaction pour la mère supérieure, c'était quelque chose de merveilleux. Et ça m'a beaucoup éclairé, parce que c'est un fait. Voyez-vous. Et elle racontait ça directement, sans du tout faire de glose, et tout simplement, en montant, on était coincés. Et Israël venant victorieux après, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez les situations invraisemblables. Hein ? Je crois qu'au Liban, vous en avez des situations encore pires d'une certaine manière, parce que c'était encore plus lié. Alors, là, on voit les fanatismes, les frères musulmans, des fanatismes religieux. Le point de vue du lien entre le point de vue religieux et le point de vue politique. Israël, le point de vue religieux et le point de vue politique. Le christianisme nous libère de ces fanatismes, normalement, en faisant la distinction entre le point de vue politique et le point de vue religieux, sans abandonner le point de vue politique, mais en faisant comprendre qu'il y a des distinctions qu'il faut respecter pour ne pas tomber dans le fanatisme. C'est très très difficile, quand on est en face de fanatiques, de ne pas devenir fanatique. C'est la chose la plus difficile, je crois. De ne pas répondre à l'adversaire avec les armes de l'adversaire. Parce que quand on est dans la mêlée immédiatement, on voit la difficulté. Prendre du recul, c'est facile quand on est en paix. C'est facile de faire des distinctions quand on fait un cours de philosophie. Mais quand on est dedans, c'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Mais il faut les faire pour que, quand on est dedans, on comprenne mieux comment les traditions religieuses doivent être gardées et doivent toujours être purifiées. Et les traditions religieuses sont purifiées par la foi et par la métaphysique. Très curieux. C'est les deux grandes purifications. Parce que les traditions religieuses ne se purifient pas par elles-mêmes. Et elles ne se purifient pas en s'alliant au point de vue politique, loin de là. Mais c'est en revenant à l'homme, quand je dis la métaphysique, c'est revenir à l'homme. C'est la finalité de l'homme. Et la métaphysique rappelle la finalité de l'homme. Elle rappelle que l'homme est fait pour la contemplation. Et elle rappelle que l'homme est fait pour l'amitié. Et l'amitié et les deux finalités vont donc permettre aux traditions religieuses de se purifier. Et je crois que c'est très important de comprendre que l'adoration, étudiée d'un point de vue philosophique, se fonde sur ces trois sources de connaissances. Mais comprenez bien, les trois existent pour un chrétien qui fait de la théologie, pour un chrétien qui fait de la métaphysique. Pour la plupart des chrétiens, il n'y a qu'une seule source, ou plus exactement, pour la plupart des chrétiens, il y a les deux sources, la foi et les traditions religieuses. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, prenez pour un musulman, quelles sont les sources de son adoration? Ses traditions religieuses. Parce que sa foi musulmane est très liée aux traditions religieuses. Je ne crois pas qu'elle dépasse beaucoup les traditions religieuses. Sauf chez quelques grands mystiques. Mais la plupart du temps, elle est liée aux traditions religieuses. Et alors on peut trouver chez des musulmans des métaphysiciens. Alors la métaphysique viendrait purifier. Puisque la métaphysique est en dehors de toute confession religieuse. Et donc elle peut se trouver dans tout homme. Dans le bon peuple chrétien, je dis bien dans le bon peuple chrétien, dans les bonnes familles chrétiennes bretonnes. Les traditions religieuses jouent beaucoup avec des mélanges de superstitions. Je prends la Bretagne parce que c'est classique. On est... Alors, c'est lié avec des superstitions, ça veut dire que les traditions religieuses sont plus à l'état très pur, sont un peu contaminées. Ces traditions religieuses fondent l'adoration. Mais, dans la mesure où elles sont contaminées, l'adoration ne peut plus être aussi vivante. Elle perd de sa force. Un breton peut être un métaphysicien. C'est pas contradictoire. Donc, à ce moment-là, ces traditions religieuses peuvent être purifiées par sa métaphysique. Et il peut avoir la foi. Une foi personnelle et une foi contemplative. À ce moment-là, sa foi personnelle et contemplative vient purifier ses traditions religieuses. Mais il peut se faire aussi que le bon chrétien breton, j'en ai rencontré, le bon chrétien breton, puisque le premier que j'ai rencontré dans ma vie apostolique, c'était un breton. C'est pour ça que c'est resté le premier selon le genre, vous voyez, dans le génétique, aspect génétique. Alors, c'est agent de la paix à Paris. Il m'a posé cette question, vous savez bien. Il venait au couvent pour ça. Quelle différence y a-t-il entre l'ascèse et la mystique? Il venait passer au couvent pour savoir quelle différence entre l'ascèse et la mystique. Et j'étais tout jeune, religieux, tout jeune prêtre. Ça m'a renversé qu'il me pose cette question. Quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans le civil, il Agent de la... Gardien de la paix. Gardien, mais il n'a pas dit flic, mais il a dit gardien de la paix. Et alors, à ce moment-là, il m'a demandé cette question. Je vois très bien sa foi personnelle. Elle existait. Mais elle n'existait pas énormément. Chez beaucoup, c'est ce qui arrive, c'est qu'on a les traditions religieuses. Et le jour où ces traditions religieuses tombent, les traditions familiales tombent et la foi se perd. Et on tombe dans une laïcisation. La dégradation se fait comme ça. Parce qu'il n'y a plus de foi personnelle et parce qu'il n'y a plus de métaphysique, ça se perd avant. Alors il y a dégradation par la superstition, parce que ça charrie des quantités de choses secondaires. Donc c'est très important de voir que l'adoration a trois sources de connaissances. Et les trois ne sont pas nécessairement liées. L'adoration est ce qu'il y a de plus profond dans le cœur de l'homme au point de vue naturel. C'est cette volonté aimante de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu et de se remettre directement entre les mains de Dieu. Alors, je voudrais avec vous, vous voyez, parce que quand je suis comme ça au plan philosophique, hein, quand j'essaie d'étudier au plan philosophique ce qu'est l'adoration, je vois que l'adoration est quelque chose d'absolument fondamental. Je crois. Le jour où on perd le sens de l'adoration, on perd le sens de Dieu. Au plan personnel, au plan individuel, c'est l'adoration qui nous renouvelle constamment dans ce sens profond du Créateur, au point de vue naturel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Éducatif. L'éthique doit nous aider à comprendre ce que c'est que le sens éducatif. Il n'y a pas d'éducation sans éthique. Et la philosophie éthique nous aide à comprendre exactement la valeur profonde de tel ou tel aspect de notre vie humaine. Donc, dans notre perspective de vie humaine, l'adoration est au cœur de l'éthique religieuse. Pas d'éthique religieuse sans l'adoration. Mais comme il n'y a pas d'éthique humaine sans l'amour d'amitié. Je crois que ce sont les deux nœuds. Au sens très très fort. Il faut toujours, au point de vue philosophique, il faut saisir ce qui donne le sens à tout le reste. Hein. Ce qui finalise. Autrement, on tombe dans la broderie. Et on ne voit plus et on ne peut plus analyser. Donc ce que j'essaie de comprendre, c'est que l'adoration est quelque chose d'absolument fondamental au point de vue éthique religieuse. Et que c'est à partir de là que nous pourrons tout saisir. Donc, attitude affective volontaire, c'est une volonté aimante, c'est un appétit spirituel, une volonté aimante d'adorer. Et dans l'adoration, je remets tout entre les mains de Dieu. L'adoration est un acte volontaire très radical, qui porte sur ce que nous sommes comme créatures pour tout remettre à Dieu. Il y a quelque chose, donc, vous voyez, de substantiel dans l'adoration. C'est bien un acte volontaire et donc intentionnel, mais il porte sur quelque chose de substantiel. C'est mon être, c'est moi-même. En tant que je suis, c'est ma personne humaine qui adore et qui reconnaît cette dépendance à l'égard de Dieu et qui se remet entièrement dans le bon plaisir de Dieu. Donc on reconnaît le primat de la volonté de Dieu sur nous. Nous n'existons que grâce à cette volonté et nous ne vivons que grâce à cette volonté. C'est pour ça que je peux dire que l'adoration... c'est un acte de politesse, vous voyez. Je salue Dieu. Je ne peux pas saluer Dieu en dehors de l'adoration. Puisque je salue Dieu comme créateur, je le laisse passer devant. Et je reconnais que je suis dépendant de lui. Et je me remets entièrement entre ses mains. C'est pour ça qu'il y a un lien très très fort entre adoration et maintenir en nous une bonne volonté. Oui, paix aux âmes de bonne volonté. C'est la conséquence. Je crois qu'on ne peut pas être une âme de bonne volonté sans l'adoration. Au sens fort, au sens plénier. Et cette bonne volonté nous maintient dans une attitude d'abandon, de remise de toute notre vie entre les mains de Dieu. Et donc maintient en nous une confiance aimante à l'égard du Créateur comme Père. C'est peut-être à ce moment-là que je saisis ce qu'est la paternité du Créateur. J'adore le Créateur. Et en adorant le Créateur, je découvre le Père. Parce que je me remets entre ses mains. Je ne peux pas découvrir le Père sans la confiance. Et c'est très important de saisir au plan éthique-religieuse ce qu'est la paternité.